Comme il a dit, on a des craintes de doute, on court vers les psaumes. Il continue, le reste de l'écriture contient les enseignements que Dieu a enjoints à ses serviteurs de nous annoncer. Mais ici, les prophètes, de son que parlons à Dieu, ils découvrent toutes les affections intérieures, appellent ou plutôt tirent à chacun de nous à examiner soi-même afin que rien ne tente incarnité auquel nous sommes jugés et de tente de vie desquels nous sommes pleins de demeures cachées. C'est certes un excellent et singulier profit qu'ont toutes cachettes découvertes. Le cœur est produit en lumière bien purgée de cette méchante infection d'hypocrisie. C'est-à-dire, quand on lit comment David, une autre personne qui a écrit un psaume, il parle de ses émotions très très profondes envers Dieu. Et si on ne partage pas les mêmes émotions, ça révèle un peu d'hypocrisie. Et ça, c'est pas mauvais. C'est une bonne chose. Parce que quand le Seigneur illumine, lui révèle les choses dans nos cœurs, il nous donne l'occasion de demander pardon, de se repentir, de changer, d'être un peu plus comme Jésus, le Seigneur. Voilà, ça c'est un peu l'importance et j'ai mis une autre citation ici. Le livre des psaumes est sans doute le livre de l'Ancien Testament le plus lu et le plus spontanément apprécié des lecteurs chrétiens. Il n'est pas rare que de nouveaux croyants se voient offrir un petit Nouveau Testament auquel sont ajoutés croix. Les psaumes, hein? Un peu comme ma petite Bible ici. Hein? On aime bien avoir le Nouveau Testament avec les psaumes parce que ça donne beaucoup d'encouragement. Voilà. Les psaumes sont importants pour nous, mais on a une question. Est-ce que les psaumes sont des poésies, hein, beaucoup de poèmes, qui sont mis ensemble, sans ordre et sans unité? Un peu comme un livre comme ça, hein, Anthologie de la poésie française, par Georges Pompidou. Et c'est un content, c'est un président, hein. C'est impressionnant. Est-ce qu'il a arrangé ou organisé ce livre selon un thème ou est-ce qu'il a choisi les poésies qu'il aimait le mieux? Lui pensait qu'ils étaient les traits les plus beaux, les plus intelligents, quoi. Moi, je ne pense pas qu'on peut lire et étudier ce livre et trouver un seul thème. Mais quand on lit les psaumes, est-ce qu'on peut trouver un seul thème? Grand thème, qui est le but du livre? Ou est-ce qu'on doit parler des psaumes? Bon, je vais poser un petit peu. Est-ce qu'on peut parler d'un livre des psaumes? Où est-ce qu'on doit parler des psaumes? Sinon, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une relation avec tous les psaumes, entre tous les psaumes, ou est-ce qu'on a seulement 150 psaumes qui sont mis ensemble, et donc on n'a pas besoin de lire le psaume 93 à la lumière du psaume 1? Vous voyez ce que je veux dire? Et maintenant, je veux qu'on regarde ce que la Bible présente afin d'établir que, selon moi, et j'espère après, selon vous, il y a une unité de sens. C'est-à-dire, je pense que c'est un seul livre avec 150 sons. Voilà. Mais tous les sons sont ensemble pour une raison. L'unité des psaumes, ça c'est le grand chiffre 2. Les psaumes ont été écrits par au moins 8 auteurs différents. D'accord? Si vous pouvez voir et lire l'écran, j'ai mis toutes les réponses, les trous, avec un. J'ai souligné toutes les réponses. Les psaumes ont été écrits par au moins 8 auteurs différents.
Quels sont les auteurs?
David.
David, voilà. David.
Asaph.
Solomon.
Fils de Corée.
Fils de Corée. Il y a un auteur qui est vraiment bien. Du temps de l'exode.
Moïse.
Bon, ils sont tous bon, d'accord. On va commencer avec David, parce qu'il est le plus connu. Et il a écrit 76 psaumes, au moins, qui sont attribués à lui. D'accord. Après, on a les fils de Corée, ils ont 10 psaumes. D'accord. Et là, bon, si vous êtes intéressé, je peux partager le PowerPoint avec vous après. Asaph, 12 psaumes. Salomon, 2 psaumes. On a David, bien sûr. Hop, je peux reculer. David, après les fils de Corée. Et après Asaph. D'accord. Et Salomon, il a écrit 2 psaumes. Un homme qui s'appelle Eman. 2 psaumes, un seul psaume. Et aussi Ethan, il a écrit un psaume. Moïse, un psaume. Et la personne qui a écrit après David, juste après David, c'est l'homme qui s'appelle Anonyme, avec 5 ans. On ne sait pas. Cinq enfants, on ne sait pas exactement qui. Donc, je vais répéter. David avec 66, les fils de Corée avec 10. 76, excusez-moi. Esaph avec 12. Salomon avec 2. Aimon avec 1. Ethan 1. Moïse 1. Et on ne sait pas, 50.
Mais ça peut être. Plusieurs personnes.
Ça peut être plusieurs. Ça peut être David, Aimon, Moïse, Jacob. Franchement, on ne sait pas. Ça peut être 50 personnes différentes. Et c'est à cause de ça que j'ai mis au moins 8 auteurs. Au moins. Hein? Je ne sais pas. Non, c'est au moins 8 ici. 50, oui, 50. Voilà, anonyme, 50. Voilà. Et normalement, on dit, s'il y a au moins 8 auteurs qui ont écrit les psaumes, est-ce qu'on peut dire que les psaumes ont été écrits? C'est-à-dire qu'ils ont un message. On continue avec la lettre B, ça c'était la lettre A. Les psaumes ont été écrits par au moins 8 auteurs différents. Et maintenant, on va dire que les plans ont été rédigés sur combien de temps? C'est-à-dire, si on prend le plus âgé, bon, le plus ancien, et le plus récent, il y a combien d'ans entre les deux? J'ai entendu des choses, mais que des bruits. 500 ans? C'est 1000 ans. 1000 ans. Si on prend, par exemple, Moïse, qui a écrit le psaume 90, envers 1400 ans avant Jésus-Christ, d'accord? Et si on prend la personne qui a écrit la majorité, le 76 psaumes, on parle à David, et David, il a vécu vers environ 1000 avant Jésus-Christ. Et si vous regardez avec moi le psaume 137, le psaume 137 dans vos Bibles, sans concept. Quelqu'un peut lire pour nous le premier verset.
Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis, nous pleurions, nous soutenant de Sion.
D'accord. Et pour vous, ça évoque quelle période de l'histoire du pays d'Israël? Ouais, c'était l'exil. Et en fait, on a des psaumes qui viennent après l'exil. C'est-à-dire, disons, après, ils sont retournés au pays. Et ça nous amène vers bon, l'année 400 avant Jésus. D'accord? On a commencé avec Moïse. Et maintenant, on arrive après l'exil. Et ça fait presque 1000 ans. D'accord? On a au moins 8 auteurs qui ont écrit leurs psaumes à travers 1000 ans. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a un seul temps? Il y a une organisation pour les psaumes, ou est-ce que ça rend les choses très, trop difficiles? Hein? Non, c'est par hasard. Ils sont dans la Bible par hasard. Ça fait ma question. Oui. Bon, c'est de fait ainsi que les livres de sang ont été organisés. C'est-à-dire, on sait qu'ils sont organisés. Hein. Mais quelqu'un les a mis ensemble. Mais la personne, les personnes qui ont mis ensemble, est-ce qu'ils ont établi une organisation qui nous aide à comprendre le message du livre? Et moi, je pense oui. Troisièmement, l'organisation des psaumes. Les psaumes sont regroupés en combien de livres? 5. D'accord. On sait que c'est 5 livres, parce que je l'ai mis sur l'écran. Mais dans vos Bibles, d'accord, si vous regardez dans vos Bibles, cherchez par exemple le psaume 41 et le verset 14. Est-ce que vous avez écrit entre le psaume 41 et le psaume 42, est-ce qu'il y a quelque chose écrit? Et si oui, c'est quoi? Deuxième livre, d'accord? Maintenant, regardez au verset 14 du psaume 41. le verset 14. Et quelqu'un peut lire ce verset pour moi? C'est court. Le verset 14, psaume 41.
Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Éternité pardon, pour éternité. Amen.
D'accord. Et j'ai Amen, Amen. La répétition d'Amen. D'accord. Maintenant, tournez au psaume 72. Et est-ce que vous avez quelque chose d'écrit entre le psaume 72 et 73? Oui, c'est quoi?
Troisième
livre. Et peut-être on se demande, comment expliquer que c'est le troisième livre? Est-ce qu'il y a des indications qui disent, il y a un autre livre? Qui peut lire les versets 18 et 19 du psaume 72?
Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, amen.
Bon, est-ce que vous avez déjà vu les mots de ce verset dans un autre sens? On vient de lire, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen, amen. On termine le psaume 72. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Béni soit à jamais son nom glorieux. Amen, amen. Et maintenant, le psaume 89. C'est pas grave. Et j'imagine que c'est marqué dans vos Bibles, livre quatrième. Et le verset 53 dit, béni soit à jamais l'Éternel. Amen. Amen. Et si on regarde pour le psaume 106. Psaume 106. On trouve au verset 48 quel mot? Ouais. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Est-ce qu'on a déjà vu ces mots? Oui. Et que tout le peuple dise Amen. Loué l'Éternel. Bon. Avec la répétition, de ces mots, il me semble qu'on peut dire, oui, il y a une organisation, et les livres, les cinq livres, sont indiqués par les mots, béni soit l'Éternel, Amen et Amen. Et moi, je pense que cette conclusion est renforcée par le fait qu'on ne trouve pas les mots Amen et Amen dans les psaumes, sauf sans ces versets. Ce que je veux dire, c'est que c'est fait exprès. C'est fait exprès. Il veut qu'on divise ce livre en cinq parties. Et il indique la fin de chaque livre par les mots béni soit l'Éternel. Amen et Amen. Voilà. On est ensemble. C'est pas très compliqué, n'est-ce pas? Mais il faut observer. Parce que combien de fois j'ai lu le livre des psaumes sans avoir noté la répétition entre les psaumes. Et non, parce que ça arrive, j'ignore de la répétition entre les psaumes parce que je lis un psaume ce jour-là, je réfléchis, Julie est la joie faite, la joie faite, je lis un autre son, sans avoir fait le lien entre les sons. Mais est-ce que les personnes qui ont écrit et qui ont organisé sous l'inspiration du Saint-Esprit, est-ce que ces personnes voulaient qu'on lise chaque son sans contexte des psaumes? Je pense pas. Et je vais continuer avec l'organisation des psaumes, la lettre B. Le livre des psaumes a une conclusion. Ça, c'est la lettre B. Le livre des psaumes a une conclusion. Regardons ensemble les derniers psaumes du livre des psaumes. On commence avec le psaume 146. Et juste pour faire les choses plus rapidement, notez le psaume 146 commence avec quel impératif? Louer l'Éternel. Et il se termine avec quel mot? C'est le même mot. Louer l'Éternel. Le psaume 147. On commence avec louer l'Éternel et on se termine avec quoi? Louer l'Éternel. Le psaume 148. Louer l'Éternel, verset 1. Louer l'Éternel, le verset 14. 149. Pensez-vous qu'on va trouver louer l'Éternel? Oui, louer l'Éternel, le verset 1, louer l'Éternel, le verset 9. Et on trouve la même chose au psaume 150. Louer l'Éternel, louer l'Éternel. Et on doit se poser la question. Est-ce que c'est par hasard qu'on trouve cinq psaumes, l'un après l'autre, qui commencent avec le même imparatif, louer l'Éternel, qui se terminent avec le même imparatif, louer l'Éternel? Est-ce que ça, c'est comme ça, par hasard? Après avoir compilé les psaumes, ils ont dit, oh, avez-vous noté? Les cinq derniers psaumes commencent et se terminent avec les mêmes mots. Incroyable, j'ai pas noté ça. Non, pour moi, ça c'est vraiment, vraiment peu probable. Je pense qu'ils ont organisé. On a cinq livres des psaumes et vers la fin, on a la conclusion. Et la conclusion, c'est quoi? Louer l'Éternel. Et c'est pour tous. C'est pour tout le monde. Ce n'est pas que pour les Juifs. Et pour moi, ça c'est quelque chose de très très utile. Hein? Parce que si on prend un livre et on lit l'argumentation de quelqu'un et on arrive à la conclusion, qu'est-ce qu'il fait souvent? Il résume, n'est-ce pas? Normalement, s'il est un bon auteur, il résume. Il vous donne les arguments en général. Il dit, j'ai dit ça, ça, ça et ça, et voilà ma conclusion. Et moi, quand j'ai pas trop de temps, je lis l'introduction, quelques pages, et la conclusion, et je sais, d'accord, je sais ce qu'il veut dire. S'il a bien fait son travail. Si on prend la conclusion des psaumes, la conclusion des psaumes, c'est quoi? Louer l'Éternel. On sait ce qui est au moins une partie du thème des psaumes. C'est qu'on doit louer l'Éternel. Vous voyez, est-ce qu'on est tous ensemble? Ouais. Je sais qu'on est fatigué, mais j'avance rapidement, j'espère. Voilà, ça c'est la conclusion des psaumes. Mais s'il y a une conclusion, on attend quoi? Une introduction, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a une introduction au livre des psaumes? Je pense oui, bien sûr. Donc, on va commencer avec le numéro 1, la lettre C, on parle maintenant, le livre des psaumes a une introduction. Le trou, c'est introduction. Mais c'est quoi l'introduction? Quelle est l'introduction? Regardez avec moi le psaume 1, s'il vous plaît. Et on doit avancer assez rapidement, mais est-ce que vous notez-vous un titre pour le psaume 1? Ça dépend. On va faire différemment. Regardez au psaume 3. Au psaume 3, quels sont les premiers mots, le verset 1? Psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom de son fils. Le psaume 4, le premier verset, au chef des chants, avec instrument à cordes, psaume de David. 5, au chef des chants, avec les flûtes, psaume de David. Le psaume 6, au chef des chants, avec instrument à cordes, sur la harpe à huit cordes, psaume de David. Le verset 7, complainte de David, chantée à l'Éternel au sujet de Cush, Benjamin, psaume 8. Au chef des chants sur la Gittite, psaume de David. 9, au chef des chants sur Meurs pour le Fils, psaume de David. Le verset 10, on ne trouve pas un titre. Mais souvent, et dans l'histoire, le psaume 10 va avec le psaume 9. Comme il est un seul psaume. Et donc, on peut, si on prend le temps pour lire les deux, on voit qu'ils sont presque le même sujet. On revient avec le psaume 11, au chef des chants de David, au chef des chants, le verset 12, et bon, je peux aller jusqu'au psaume 41. Mais chacun sauf les psaumes 10 et le psaume 33, je pense, on a des titres. Et le psaume 10 et le psaume 9 vont ensemble. Et le psaume 32 et le psaume 33 vont ensemble. Parce que si vous regardez le psaume 32, le psaume termine avec le verset 11, juste, réjouez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Juste, verset 1 du psaume 33, réjouis-vous en l'Éternel, la louange est aux hommes droits. On a la répétition, n'est-ce pas? Et bon, on peut voir pourquoi ces deux vont ensemble. Et il n'y a pas de titre. Ok. Entre les psaumes 3 et les psaumes 41, tous les psaumes, sauf 2, ont des titres. Psaume de David, etc. Regardons maintenant les psaumes 1 et 2. Les psaumes 1 et 2, est-ce que ces deux psaumes commencent avec des titres, comme les autres? Non. Et ça nous indique qu'il y a une différence entre les psaumes 3 jusqu'au psaume 41 et les psaumes 1 et 2. Mais peut-on conclure que les psaumes 1 et 2 font l'introduction? D'accord. Ça, c'est une autre question. Ah, une question après question. attention, hein. C'est complètement, si vous voulez dormir. Mais, bon, il y a un monte titre pour les deux premiers psaumes. Deux, okay, ça c'est le 1, sur la lettre C. La lettre C, le livre des psaumes a une introduction. Comment on le sait? On le sait parce qu'il y a un manque d'un titre pour les deux premiers psaumes. Vous voyez ce que je voulais faire, au moins, c'est de prouver, hein? Prouver. Que les psaumes 1 et 2 font l'introduction du livre des psaumes. Je sais, le livre des psaumes a une introduction 1, le manque d'un titre pour les deux premiers psaumes. 2, la répétition des mots clés dans les deux premiers psaumes. J'imagine que tout le monde ici peut répéter, réciter le psaume 1, n'est-ce pas? Heureux l'homme qui ne marche pas. C'est joli, n'est-ce pas? Et le psaume 2, peut-être on sait un peu moins bien comment, c'est un peu plus long. Mais pourquoi ce tumulte parmi les nations? C'est mal pensé parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se lèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Voilà. Est-ce qu'il y a des liens entre ces deux sons? Est-ce qu'il existe des liens, des répétitions des mots entre ces deux sons? La réponse est oui. Quel est le premier mot du psaume? C'est quoi? Heureux. Quel est presque le dernier mot du psaume 2? Heureux. Et en fait, je pense en hébreu, c'est le dernier mot. Et normalement, ça c'est appelé l'inclusion. Et ça sert un peu comme les cerfs-livres. Un ici, et tout ce qui est entre ces deux choses vont ensemble. Jésus a fait la même chose quand il a prêché son sermon sur la montagne. Il a dit quoi? Heureux l'homme, en fait. Mais en Matthieu 5, il commence avec heureux, le verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et on trouve à la fin, le verset 10, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Est-ce qu'on doit conclure qu'au verset 7, les miséricordieux, on sait bien parce qu'ils vont obtenir une miséricorde, mais Jésus n'a pas dit que le royaume des cieux est à eux. Est-ce qu'ils vont rater le royaume des cieux? Non. Il a commencé avec cette idée, le royaume des cieux. Il a terminé avec l'idée, le royaume des cieux. Et toutes les personnes entre ces deux versets 3 et le verset 10, ils vont hériter le royaume de Dieu. Mais il veut mettre l'accent ailleurs. Ça, c'est l'inclusion. Il commence avec l'idée, il termine avec l'idée. Et on est... Donc, il attend qu'on dise, ah, heureux, ils vont ensemble. Voilà. Ça, c'est l'un des mots qui est répété. Mais on a aussi au verset 1, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Le verset 6, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Au psaume 2, on a le verset 10, et que vous ne périssiez dans votre quoi? Votre voix. On a cette idée de la vie, il utilise une image pour la vie, et ça c'est la voix. On a des voix à prendre. Aussi le verset 2, qui la médite jour et nuit, et qui peut trouver le mot, le verbe méditer au chaque au psaume 2. C'est là, mais c'est où, au psaume 2. C'est un peu un piège, parce qu'on ne trouve pas le verbe français méditer. Mais on trouve le même mot en hébreu dans les deux, et c'est au verset 1. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vains pensées parmi les peuples pensées? Pourquoi ces vains méditations? Pourquoi ils méditent des vaines choses? Et entre les deux psaumes, on a ceux qui méditent des bonnes choses et ceux qui méditent des mauvaises choses. La rébellion et la soumission. Mais ça, c'est une répétition. Et aussi, on a cette idée, le verset 6 du psaume 1. Il termine avec cette idée très lourde. La voie des pécheurs mène à la ruine. Et au psaume 2, le verset 12, baissez le fils, baissez le fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Périssiez, c'est le même mot. C'est la répétition des mots hébreux qui indique qu'il y a des liens entre ces deux sens. En fait, ils traitent les mêmes sujets. Ils n'ont pas de titre et ils sont distingués un peu parce que après le psaume 2, commençant avec le psaume 3, tous les psaumes ont des titres du premier livre. Ça nous indique qu'il y a une distinction entre les psaumes 1 et 2 et le psaume 3 et suivant. Et ensuite, on note qu'il y a de la répétition entre ces deux psaumes. Et ça nous indique que les deux psaumes doivent être pris ensemble. D'accord? Ils sont une introduction au livre de l'Esprit. Et voilà. Est-ce que vous êtes convaincus? Parce que je jette la fondation. Tout ce qu'on va faire demain dépend de ce qu'on fait maintenant. Ok? On est ensemble. Vous pouvez poser des questions après si vous voulez. Donc, voilà. Mais maintenant, je veux changer un peu notre direction. Et nous allons parler de l'interprétation des textes. Et il y a des questions qu'il faut poser quand on étudie les sons. On commence avec cette question. Qui parle dans le son? C'est simple, n'est-ce pas? Mais on doit connaître qui parle. Par exemple, je viens de terminer le livre Le Conte de Monte Cristo. Et il y a beaucoup de personnages dans ce livre. Et si je ne suis pas sûr qui parle, je serai perdu. Je dois connaître la personne qui parle. Et c'est la même chose pour les psaumes. Par exemple, le psaume 2. Est-ce qu'il y a une seule personne qui parle dans le psaume 2? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100. On doit le connaître. Par exemple, qui dit, Brisons leurs liens, délivrons-nous de leur chair. Les rois de la terre. Oui. Mais si on pense, ah, c'est le psalmiste, ou c'est l'Éternel. L'Éternel dit, brisons leurs liens, il est lié. Je savais, je jamais savais ça. Non, on doit connaître qui parle. Parce que ça nous donne de signification. Non. D'accord. Qui parle? Ça, c'est la lettre A. Qui parle? Deuxième question. Qui sont adressés dans le sens? C'est-à-dire, ils parlent à qui? Ça, c'est simple, n'est-ce pas? Vous le faites sans savoir, mais parfois on doit savoir qu'on le fait. Qu'on le fait. La lettre C. Le son, le psaume, contient-il la répétition des mots, des idées, des structures grammaticales? Et vous le connaissez, je sais, mais c'est bien d'être, d'avoir des rappels. La poésie dans la Bible hébraïque n'est pas comme la poésie française, américaine, qui utilise beaucoup les rimes. Pour les Hébreux, c'était plutôt la structure, la répétition des mots. Parfois, c'est des structures grammaticales. Parfois, on a la répétition c'est les contrastes, c'est l'opposite. Hein. Mais on doit faire attention. D'accord? Il faut le lire avec les yeux ouverts. Et ça, c'est difficile le matin, n'est-ce pas? On se lève, bien, je veux lire la Bible, et 20 minutes après, soit j'ai lu un seul verset, 25 fois, c'était très très difficile, ou j'ai lu un chapitre, mais franchement, je ne sais pas ce qui était là-dedans. Hein. Je l'ai lu, mais après, je ne sais pas. Ça, c'est pas la meilleure façon de faire les choses. Et ce qui aide beaucoup, c'est d'avoir un stylo à la main. Pour faire des cercles, entourer les choses, barrer les choses, souligner les choses, faire les liens entre les idées, les mots, et tout cela. ça, c'est la question 4. Et le 3, et maintenant le D. Le psaume contient-il des images? C'est quoi une image dans ce style de son, dans ce sens? C'est comme une statue?
C'est quoi?
Statue? Non.
Comme une
parade. C'est quelque chose qui évoque. Normalement, ils utilisent quelque chose concret, qui évoque d'autres idées. Par exemple, un homme qui est heureux, une femme qui est heureuse, et comme quoi? Un arbre? Une personne heureuse doit avoir des racines, des feuilles. Non. Il veut évoquer d'autres choses, des choses qu'on ne peut pas toucher, des choses intangibles qui sont communiquées par cette image d'un arbre planté près d'un courant d'eau. Et on va parler plus de ça demain, mais il y a des images utilisées partout dans les sons. Et on peut les lire assez rapidement. Dieu pour nous est un rocher. Vous savez quoi? C'est une image. Il faut creuser pour trouver c'est quoi la signification d'être un rocher, un bouclier. Voilà. Est-ce qu'il y a des images? Et s'il y a des images, il faut du temps pour réfléchir. Quand je pense à l'arbre, ça me dit quoi? Mais ça exige du temps, hein? Ça exige du temps. Voilà. Quelqu'un à l'église m'a dit, tu dis, voilà, trop bien. Maintenant, j'essaie de... Je suis un géant, maintenant. Mais c'est mieux que dire, comme les Américains. Et maintenant, la catégorisation des sons. Ça, c'est pas bon. Je vous donne, parce que c'est un peu utile, mais c'est pas très, très, très nécessaire. Mais on a des psaumes qui sont des hymnes. On a des psaumes qui sont des psaumes de reconnaissance. Dis merci. Le psaume de pèlerinage, ceux qui chantaient en temple pendant qu'ils allaient au temple pour nous visiter. Psaume de sagesse, un peu comme les proverbes qui donnent la sagesse. Psaume de lamentation. Et je crois que ça, c'est compliqué, c'est compliqué qu'on a. On a besoin de ça, aujourd'hui. On n'a pas trop des cantiques de lamentation pour exprimer notre tristesse sur nos péchés, sur la perte, sur la souffrance. On a besoin de s'exprimer souvent. Le psaume de couronnement qui parle plutôt du fait que Dieu règne sur tout. On pense à la couronne, on pense au roi. Et en somme, les psaumes royales, ça c'est le 6. Et ça c'est surtout les psaumes qui parlent de David et ses descendants, mais qui parlent plus profondément du Christ. Ils sont très souvent utilisés dans le Nouveau Testament pour parler du fait que Jésus est le roi, promis, et les psaumes d'interprétation. On aime beaucoup les psaumes d'imprécation. Pour les personnes, peut-être mal. Ok. Maintenant, je vais appliquer un peu. Ça, c'est un peu comme un cours. Hein. Pas vraiment une prédication. Mais maintenant, on a notre base. Mais si les psaumes ont une organisation, et si les psaumes sont divisés, oui, en 5 livres, mais c'est un seul livre, un peu comme le Seigneur, c'est quoi, le Seigneur d'Agneau? Des Agneaux, ouais. C'était 3 livres, mais c'était une seule histoire. Et si les psaumes, d'accord, si les psaumes sont divisés en 5 parties, mais c'est un seul livre, ça veut dire qu'il y a un seul message. Et qu'on ne peut pas lire le psaume 23 hors du contexte du livre des psaumes. Et du livre, du premier livre, du livre des psaumes. Mais ce qui est vraiment intéressant, hein, si on recule un peu pour regarder le livre des psaumes, on voit qu'on commence avec souvent David sous la persécution, n'est-ce pas? Le psaume 3. David sous la persécution. Le psaume 4. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice, quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Au début, on trouve David sous la souffrance, dans la souffrance, sous la pression. Mais il y a un mouvement dans les livres du sang, parce qu'on termine avec quoi? On termine la conclusion du quoi? Louer l'Éternel. Mais pas seulement David, pas seulement les Juifs. Louer l'Éternel, louer Dieu dans son sanctuaire, louer-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec la tambourin et avec les danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, louent l'Éternel. On parle plus de David et des nations. Si vous respirez, vous êtes appelés à louer l'Éternel, même si vous n'êtes pas juif, comme moi. Et pour moi, ça, ces pensées, elles ont ouvert pour moi les psaumes. Parce que maintenant, quand je lis le psaume, je regarde un livre qui commence avec la souffrance et bien localisé avec David et son peuple, le peuple d'Israël. Mais à la fin, on voit le mouvement de l'histoire. Dieu travaille, il œuvre. Et un jour, on verra cette conclusion. Tout ce qui respire, Dieu est l'Éternel. Et ça fait notre prière, ça, c'est pourquoi nous existons et c'est pourquoi nous travaillons. Afin que Jésus-Christ, que Dieu, en trois personnes, soit loué. Et il est digne de ça. Voilà. Nous allons prier ensemble et après, Lana va lire le sermon prochain. Le Père Céleste, tu es digne de notre demande. Pour tes hauts faits, pour ta grandeur, pour ta majesté. Et nous te remercions pour les psaumes. Pour l'organisation des psaumes, pour l'occasion de les étudier, et nous voulons, selon ta grâce et dans ta miséricorde, avancer avec notre compréhension des psaumes. Nous ne voulons pas être des experts des psaumes, mais nous voulons te connaître à travers les psaumes. Comment répondre aux souffrances? Mais aussi comment vivre avec cette idée dans nos têtes. Tu seras loué. Et que cette pensée nous anime pour ta gloire. Oui, question. Imprécation, ce sont des psaumes où David prie que Dieu juge les malfaiteurs. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut peut-être regarder, considérer tout ce qui se passe en France avec les personnes qui causent beaucoup de blessures, beaucoup de peur. Et est-ce qu'on a le droit de prier que Dieu les juge, que Dieu les tue? on va avoir la sagesse du Seigneur avec cette idée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on a des clous qu'on a ratés, hein? J'ai essayé d'aller assez lentement, mais vous avez reçu les
plaintes. Les plaintes. Il est dans la catégorie de 2.
Lamentation, on le met là ou... Oui, j'imagine. Oui, et je veux dire qu'il y a des. Ils sont catégorisés différemment par les personnes différentes. Et parfois, on a des psaumes qui, on peut dire, ah, ça c'est un hymne, mais aussi un psaume de sagesse. C'est pas clair et net. Et c'est pourquoi j'ai pas mis trop d'accent sur cette partie-là, parce que, selon moi, ça c'est l'homme qui impose des catégories. Parce que ça nous aide un peu. On a des yeux comme ça, des yeux comme ça, des yeux comme ça. Mais je ne l'ai pas écrit. Par exemple, psaume 1, psaume de sagesse, psaume de David. Bon, c'est mieux qu'il dit, hein, ça c'est le psaume de sagesse. Psaume de plein lamentation.
Les cinq livres, c'est déjà hébraïque.
Oui. Oui, ça se trouve dans la Bible.
Non, mais les cinq que nous transposons dans nos Bibles maintenant, c'est partie de la division hébraïque.
Oui, oui, ça c'est vrai. Et en fait, les Juifs, ils ont fait la comparaison entre les cinq livres des psaumes et les cinq livres de qui?
Oui.
Et ça nous démontre, franchement, la profondeur de leur appréciation pour les psaumes. Parce que Moïse, il était Moïse, hein? Et il faut dire qu'il y a cinq livres des psaumes qui correspondent avec les cinq livres de Moïse, ça met l'accent sur l'importance des psaumes.
Est-ce que ce sont les Juifs qui ont organisé les psaumes comme ça, qui ont décidé que Moïse serait après David et
oui,
le 1 et le 2 serait avant?
Oui, je pense que c'était
les Juifs qui ont décidé. On sait à peu près quand ils ont décidé que ça serait organisé comme ça?
Bon, bien sûr, ils ont terminé après l'Église. Parce qu'on a des psaumes qui viennent après l'Église. Non, personne ne sait exactement quand ils ont terminé, mais ce qu'on croit, Jésus l'a accepté comme la parole de Dieu. Et ce que nous croyons, c'est que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré l'acte d'écrire, mais aussi qui a organisé, je pense que c'est le Saint-Esprit qui a fait l'organisation exprès à travers ces personnes.
Donc voilà. Donc le Saint-Esprit a inspiré ceux qui ont écrit et ceux qui ont claqué, puisque finalement
c'est claqué. Oui, dans sa providence, si on dit inspiré, si on dit c'était dans sa providence, ce qu'on sait, c'est que Dieu contrôle tout. Il n'y a aucune chose qui se passe hors du contrôle de Dieu. Et si on regarde le livre de psaume, on dit, regarde cette organisation, ça ne peut pas être par hasard, au hasard. On ne peut pas dire, oh, merci Dieu, hein, même s'il ne voulait pas, les hommes l'ont fait. Non, je pense qu'on peut dire, Dieu, il a fait sa volonté à travers les gens qui ont organisé la vie.
Juste une question. C'est toujours chanté dans les synagogues, les psaumes. Je sais qu'il y a les psaumes pour Pâques, les psaumes à l'aile, le chant dans la cérémonie. Est-ce que les autres psaumes ont une chance à notre époque maintenant, pas des livres?
Je pense oui. Bon, oui, je n'étais jamais là. Mais j'ai regardé un mois, j'ai regardé un film des hommes juifs. J'ai chanté le psaume, je pense que c'est le psaume 121. C'est très très beau. Très très beau. En hébreu, donc je ne ferai rien. Mais c'est beau. oui, je pense. Et parmi les églises évangéliques, il y a pas mal d'églises qui essaient de chanter les psaumes. les juifs messianiques qui chantent encore.
Oui, les nuits des juifs messianiques. Et je pense que dans l'église où était Brian et Johanna, je pense qu'ils chantaient les psaumes. Pas seulement les chants, les psaumes, mais.
Oui, avant, je crois, je devais
que les psaumes.
L'église en
Écosse.
Oui.
Et c'est bon, c'est bien si on peut chanter les psaumes. Hein.
Mm-hmm.
On ne peut pas se tromper avec les mots. Hein.
Oui, aussi la retenir comme ça.
Oui, oui, ça aide beaucoup. Hein. Je pense que nos enfants sont en train de mémoriser le psaume 1 en chantant. N'est-ce pas? Il y a un chant qui continue.
Que
l'air bien, ça. Voilà. Mais oui, c'est un peu changé. Mais bon, quand on traduit la poésie, on va changer. Voilà. Merci, vous avez bien fait étant très très fatigué. Mais je vous demande de vous poser bien ce soir et travailler demain.
Merci beaucoup, Michael. Vous avez l'avant-goût, hein, ce qui vous attend. Donc, merci, Seigneur. Et pour demain, j'ai encore du mal à mémoriser. Ça sera aujourd'hui, c'était les pendules. Demain,
le réveil.
Donc, les numéros 2, ceux qui ont choisi le chiffre 2, qui est le chiffre 2, ça va être le réveil. Donc, qui va préparer le petit déjeuner, après 8h30. Mettre les bols, le chocolat.
On mange à
8h30, mais ceux qui préparent, vous êtes venus, c'est un quart d'heure avant. Pas suffisamment. Non? Ah, vous dites que non, 8h alors. Donc les réveils demain à 8h, parce qu'il faut se lever, il faut mettre les beurres, et voilà. À 8h, c'est bien. Et
juste voir, Joanne, juste après. C'est fatigant pour.
Après vous pouvez parler. Oui, désolé. Juste pour demain dans le réveil, c'est le petit déjeuner. Après, David, est-ce que tu peux nous en parler? Parce que demain, on aura une journée libre l'après-midi. Ouais. David avait suggéré de partir en canoë-kayak. Donc peut-être je te laisse donner la parole pour que tu puisses dire en détail tout ce qu'il faut, ce qu'il y a envie de faire. Cela.
J'avais regardé sur l'office de tourisme de Saint-Antonin. On a cette chance finalement d'être en Tarn-et-Garonne, mais en plein sur le site des Gorges de l'Aveyron. Hein, vous avez vu, en arrivant en voiture, vous avez le choix entre deux routes, les 18 km pour arriver à Saint-Antonin ou les 26 en passant par les Gorges. Donc nous, systématiquement, le GPS nous amène par les Gorges et on découvre ce site magnifique qu'on voit généralement sur les cartes postales et on a envie d'y descendre pour voir ce qui s'y passe en bas. Donc je me suis dit cette année, j'en ai parlé à Alain, j'ai dit pourquoi pas, puisqu'on a un après-midi de libre, pourquoi ne pas faire une escapade sur l'Aveyron. J'ai regardé sur le site, sur l'office de tourisme de Saint-Antonin. Donc il y a le départ est Saint-Antonin, de toute façon, quoi qu'il en soit. Dans le village, il y a 7 ou 8 clubs qui font ça, qui louent des canoës ou des kayaks. Il n'y a pas de rafting en ce moment puisque les eaux sont trop calmes. Le rafting se fait plutôt au mois de février. Donc là, on est tranquille, on fait une descente tranquille en canoë ou en kayak. Kayak, si vous êtes tout seul, en canoë à deux, voire un troisième à un enfant au milieu. Donc les possibilités qui se présentent à nous, pour nous, on a la possibilité de louer ces bateaux, ces embarcations pour quelques heures ou une demi-journée, enfin peu importe, le temps qu'on en a besoin. La descente, c'est une descente soit de 8 km, soit de 17 km. Voilà. Et le prix maximum, en fonction des différents clubs. Mais le prix maximum, c'est 22 euros par personne. Et j'ai re-regardé encore ce matin. On descend à 14 pour un certain club, on descend à 14. Voilà. 14 euros par personne pour les 10 km. Les kilomètres, c'est déjà bien, je pense, pour, surtout qu'on n'a pas trop l'habitude d'en faire habituellement. Donc, se faire déjà 10 km de baguette, je pense que ça sera déjà pas mal. Hein. Voilà. Et ça, sans être possible pour l'instant. Alors, pour l'instant, je n'ai appelé personne, puisque je n'ai appelé aucun club pour l'instant, puisque ça ne sert à rien d'appeler les gens pour leur dire on va peut-être être 3, peut-être être 15. Il fallait déjà s'il y avait des personnes qui étaient intéressées par le faire. Si on part sur une moyenne de 15-16 euros, combien il y a de personnes qui sont intéressées par descendre. Il faut savoir nager, hein, quoi qu'il en soit. Même si les eaux ne sont pas profondes, hein, il faut quand même savoir nager au cas où vous tomberiez à l'eau. Donc, de ne pas paniquer. Tu peux avoir un maillot de bain, un short de bain ou un short, peu importe. Il faut savoir que tu arriveras, ça sera mouillé. D'accord ? Ils mettent à notre disposition donc un bidon étanche par embarcation. Donc, on met nos affaires de rechange dedans. On met nos bouteilles d'eau, on met, si on pense avoir faim en cours de route, etc. On met tout ça dans le bidon étanche. On fait nos 10 km. Arrivé en bas, ils nous remontent en navette.
On
est avec
le gilet de sauvetage.
Oui, ils nous fournissent gilet de sauvetage. Tout est fourni. Il faut juste qu'on vienne avec casquette, crème solaire, chaussures fermées. Parce que vous tombez à l'eau, vous pouvez tomber sur des cailloux qui font mal, donc des chaussures fermées. Voilà. Après, regardez de leur présentation, c'est vraiment très très rare de tomber à l'eau. Que ce soit les kayaks ou les canoës ne se retournent pas continuellement. Ils sont fabriqués de telle façon qu'ils sont tellement plats que c'est très dur de se retourner. Ça peut se retourner. Ça fait arriver. C'est un sport sur l'eau. Hein. Oui, voilà. Donc, on conclut. Ceux qui sont intéressés, levez la main. Ah. Une personne, deux adultes et un enfant de Dieu.
Tu sais, David, je vais te parler d'un square. Il a un copain. Et on peut avoir des infections par
le système. Mais par contre, il faut quand même qu'on sache.
Je ne sais pas si
il y a des personnes qui sont intéressées.
Oui, parce que là, on va voir son PRV.
Oui, voilà.
Parce qu'ils disent que vous m'avez dit, alors je ne vois pas.
S'il vous plaît. Donc, à part Laetitia qui s'est prononcée, est-ce que d'autres personnes dans Félicès, Angélique, Jiwan, ça fait 3, 4, Michel 5, 6, 7, on part sur une dizaine pour l'instant, une dizaine, d'accord? Ok. On part sur une dizaine, on voit donc avec Johannes.
Il y a un comme chaque année, on organise des tournois. J'ai vu qu'Eric Samien filait de volley-ball. Il y a des tournois aussi de volley-ball qui sont rendus partout. Et qui font aussi jamais les raquettes. Donc, tout ça, on peut organiser. Ceux qui ne partent pas. Et aussi pour rester, pas monter, parler. Voilà. En gros, c'est ça. Demain, entre 8h et 10h, à 10h, on n'a pas la cloche, hein. Donc il faut que vous reteniez que à 10h, même si vous faites un peu du sport, vous revenez à 10h ici. Donc le planning est 11h30 dans le temps libre, à 12h30, déjeuner. Et à 14h, donc la sortie, pour ceux qui font la sortie kayak, et pour ceux qui restent ici. Voilà. Au moins pour la matinée, on a ça pour la matinée. Est-ce qu'il y a autre chose, d'autres questions? Oui, je n'ai pas encore parlé avec David parce que on en parlera tout à l'heure. C'est question de responsabilité, si on ne sait jamais, jamais dans tes retours, qu'il soit avec les parents. Voilà, donc, c'est le quartier libre des Suzannes, maintenant, je crois que les supporters des jeux, je vais faire ça. À comme ça, 23h, je vais faire ça. Si vous ne pensez pas, c'est que. Est-ce que vous avez jamais envie de faire ça, mais vous, parce qu'on entend tout, il y a des filles qui dorment là-haut. Je veux voir si vous pouvez être avec ton équipe.